Alors je sais pas si je vous qu'est-ce que je pourrais dire de plus. J'ai
Sur
beaucoup de choses là.
la naissance et la mort, je sais pas, est-ce que tu peux parler un peu de quand Bouddha dit qu'il n'est jamais né, enfin, toi, toute cette notion, je trouve, c'est
Ah
comment
oui.
il... parce qu'il a vu la maladie, il a vu la mort, et finalement, qu'est-ce qu'il fait de la mort?
Oui, ben on dit d'abord que la réalisation du nirvana, c'est la réalisation du non-né sans demeure. Alors, donc dans les réalités de la souffrance, il y a la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, effectivement. Et la mort, ben, la grande question qui se pose, c'est qui meurt? Puisqu'en fait, l'enseignement du Bouddha, c'est comme tous les enseignements, c'est universel. Hein, ça peut aussi se réduire à qui suis-je? La fameuse question de Ramana Maharshi qu'on connaît, hein, mais c'était aussi celle de Socrate, qui est toujours qui suis-je? Et donc, par rapport à la mort, la question que pose le Bouddha, c'est qui meurt? Alors, on va dire, c'est moi qui meurs. Évidemment, c'est moi. Et c'est quoi moi? Voilà, toute la question est là. Et le Bouddha a trouvé une réponse à cette question en découvrant l'illusion du soi. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Anatmanvadin, celui qui enseigne le non-soi. Et ayant découvert la réalité, réalisé la réalité du non-soi, il a découvert l'illusion de la naissance et de la mort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir de faim.
Bah, il va bien
Tous
mourir
les,
de
il va
toute façon.
mourir, bien sûr, il va mourir. Et tous les maîtres, grands maîtres qu'on a
Oui.
pu connaître ou entendre parler, ils sont allés à l'hôpital, ils ont eu des cancers, ou il est mort d'une dysenterie. Et tout ce Mais, comme il le dit lui-même,
C'est le corps
ce
qui
que vous
meurt,
nous
oui.
voyez de moi, quand il parle du Bouddha, hein, quand il parle de lui-même, il dit qu'il se lève, qu'il marche, qu'il se couche. Il mange, vous ne voyez pas le Tathagata, c'est-à-dire celui qui est l'ainsi allé, l'ainsi, celui qui est allé dans la nature des choses, vous ne le voyez pas. Donc vous voyez celui qui se lève, qui marche, qui se couche, mais vous ne voyez pas la nature de son expérience. Et au moment où il meurt, semble-t-il, en tout cas,
C'est son
il y
corps
a
qui
son
meurt,
cœur, son
son
corps
corps
qui est
qui
mort,
meurt, mais par
mais il n'y
l'esprit.
a plus d'identification à ce corps comme étant moi. Donc il y a une liberté et une liberté, semble-t-il, qui fait qu'il traverse le moment de la mort, même si ça doit, semble-t-il, quand même être difficile, mais sans être identifié à la souffrance organique, on va dire.
Et donc, ce que je comprends, si je comprends bien, c'est que la douleur physique, elle ne peut pas être enlevée, mais la souffrance qui accompagne la douleur physique peut être enlevée par le chemin intérieur et la voie du mieux.
Il semble que oui.
Mais donc, lui, il propose vraiment quelque chose sur l'anxiété, sur la souffrance qui accompagne la souffrance physique, mais pas la
Merci.
souffrance physique en soi.
C'est une question, hein, mais il semble qu'il y a une souffrance physique, mais qui, semble-t-il, est vécue de façon très différente de notre ordinaire, en fait, dans le sens où, comme il n'est pas identifié, il s'identifie pas
Il est pas envahi.
à l'expérience qui va de souffrance. C'est comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Et donc, il semble. Extérieurement, quand on voit, quand on voit bon, il y a le vieillissement, vous avez tous vu des maîtres tibétains là qui sont tout creusés, tout ridés, tout bon, il semble qu'il y a une, ils sont aussi capables de se mettre en méditation et d'attendre la mort comme une sorte
Sereinement.
de passage, sans. Donc oui, et donc il n'y a pas une négation de la souffrance, hein, même, mais il y a un changement. Il semble que tout le dharma ne change pas la réalité au sens qu'on ne va pas se transformer en je sais pas quoi. Ce qui change, c'est la relation que nous avons avec les choses. La relation que nous avons avec notre corps, avec les autres, avec nos émotions, avec nos pensées, avec la naissance, la mort, la maladie. Le travail intérieur, le travail contemplatif, méditatif, permet de transformer vraiment et même métamorphoser au sens notre rapport aux choses, aux expériences, aux sensations, aux perceptions, etc.
Je peux me permettre, Francisco Varela, là, il est mort il est tombé malade d'un cancer. Et j'ai vu il a parlé de son expérience, notamment à l'hôpital où il souffrait beaucoup. Et en fait, il expliquait cette attention qu'il avait à la douleur, essayer de l'observer. Donc c'est ça qui m'avait marqué. Et donc, lui, il était à méditer sa douleur, parce qu'il portait un intérêt, parce que du coup, de ne pas subir.
Il apprivoisait quelque part.
Puis ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il était très, très attentif au personnel soignant, notamment aux infirmières. Et il disait, comment allez-vous, votre famille, comment ça va? Et du coup, le service, tout le monde l'adorait, en fait. Et donc, il raconte, quand il est parti du service, des gens pleuraient, quoi. ça m'évoque ce que tu dis. Il y a la souffrance, mais il y a aussi l'intérêt à l'autre, qui fait que la souffrance prend une autre place, peut-être.
Ouais.
Du coup, quelque part, la phénoménologie est une ascèse, en fait, pour Bouddha.
La phénoménologie du Bouddha ?
Oui, c'est une ascèse. Enfin, pour guérir, la première ascèse, c'est commencer par observer les choses avec une vision phénoménologique.
C'est une ascèse de la voie du milieu. C'est pas une ascèse,
extrême.
De mortification extrême.
Oui, c'est ça.
Ou pendant un verre de plaisir intense et exacerbé.
Oui, tout à fait. Hein. Bon, la 16, il faut voir ce qu'on entend par là. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine exigence de. Alors, la 16, c'est un mot fort, mais en tout cas, c'est.
Moi, j'aime bien le mot d'expérience, d'expérimentation, d'observation, de développer effectivement par l'entraînement cette possibilité d'observer ce qui se passe en nous.
Oui, puis ça dépend de chacun. En fait, il y a comme on dit souvent dans la voix aussi, on dit que c'est bon au début, bon au milieu, bon à la fin. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans cette direction, c'est toujours bon. Et après, à chacun de. Il ne devrait pas se dire, c'est des trucs d'ascétique, c'est pas pour moi. Non, parce que même un petit peu dans cette direction amène un bénéfice, amène quelque chose de bon. Et ensuite, on peut aller plus ou moins loin selon sa motivation, ses conditions, son inspiration, etc.
La semaine dernière, en termes d'exercice.
Comment ?
C'est bien de le voir comme ça. La scène, ça peut être aussi un. Pas au sens qu'on entend au sens commun, mais au sens exercice.
Oui, tout à fait.
Je te rappelle, Jean, il en parlait là. Je crois que c'est Pascal, il s'appelle. Non, c'était Pascal. Il parlait de ça un peu.
Un entraînement.
C'est un entraînement.
On appelle ça la voix, c'est trois entraînements. On pourrait. C'est mieux de dire entraînement qu'à 16, parce que sinon, pas beaucoup de monde.
À 16, ça fait peur.
Oui, oui.
Tu n'as pas parlé de la libération de l'illusion, mais est-ce que c'est équivalent à, du coup, l'absence d'ignorance, je veux dire.
Exactement. L'ignorance amène l'illusion. Exactement,
ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est parce qu'on s'illusionne qu'on tombe dans la souffrance, mais qu'on analyse du coup des causes de l'illusion, mais bon,
pas mis dans les analyses et tout, quoi. Mmh. On pouvait s'en sortir un petit peu mieux, quoi.
Mmh. Ouais, exactement. Ouais.
Ce famille, Swami Brahmananda, disait que avant d'arriver à l'illumination, le Bouddha s'est arrêté sur le Jagodhi et avait décidé que s'il n'y avait pas d'illumination, il restait sur place et il mourrait. Mm-hmm. Il n'y avait plus de. C'était quitte, il n'acceptait pas de. Il est arrivé à un degré où il va être assis. Et au moment où il a décidé de rester immobile et d'accepter le fait d'avoir la mort, si mes chambres étaient là, c'est lui qui l'a reçu après. Mm-hmm. C'est là où il a reçu la qualité de l'illumination.
Oui, c'était jusqu'au bout de
l'histoire. Et c'est rare, qu'un pratiquant ait la force
mais oui.
de risquer sa vie en méditation au degré d'accepter. Il y a beaucoup de. Le monde lamaïque est très rude. Il y a des choses extrêmement dures parmi les lamas, de maîtres qui ont perdu la vie. Ont perdu la vie dans le rapport méditatif. C'est un monde très dur, très rude. Le Bouddha, il dit que le Bouddha est un guerrier, hein, donc du clan des guerriers. Il y a une sculpture qui le représente mortifié, qui est une sculpture. C'était un guerrier avec des épaules comme ça, quoi. Hein, c'est vraiment un guerrier. Mais je pense que c'est un enseignement canonique que vous donnez. Je pense que. D'abord, il n'y a pas d'abord déiste. Il n'y a pas de Dieu. Même si un nom est, il n'y a pas de rapport d'entité qui viendrait. Oui, il n'y a pas de rapport entitaire d'un Dieu, quoi. Il n'y a pas ça.
C'est non théiste.
C'est non théiste, quoi.
D'accord.
Et en même temps, ça arrive dans un contexte. De Dieu, enfin, dans les récits du bouddhisme, c'est un mélange, quoi. Enfin, il y a le récit du Bouddha, puis il y a tous les dieux.
Oui, il y a beaucoup de dieux. C'est vrai. Avec un X, quoi, des dieux.
Ouais.
C'est vrai. Bon, après, c'est non théiste parce que c'est pas théiste au sens de monothéiste auquel on a avec les trois monothéismes abrahamiques, là, mais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension divine, en fait, de l'expérience. C'est-à-dire une dimension qui transcende les limitations de l'esprit humain, au sens où on l'entend habituellement. Et ces états de... Comment dire Bon, c'est ce qui a beaucoup été développé. Ça allait plus ou moins selon les perspectives, mais dans le Vajrayana, par exemple, ça s'est développé à travers les déités du Vajrayana, hein, Chenrezi, etc., Tara, etc., toutes ces représentations qui sont des représentations de la claire lumière, en fait, mais sous une forme anthropomorphique, mais qui sert de média vers l'expérience qui est au-delà des formes. On utilise les formes vers l'expérience qui est au-delà des formes et qui a ça a souvent été traduit par déité, en fait. Mais ça ne correspond pas à des entités. C'est-à-dire que dans la perspective monothéiste, on a tendance, qu'on le veuille ou non, plus ou moins, à solidifier l'idée de Dieu, à la réifier comme quelque chose, alors que. Alors, pas dans le mysticisme profond, peut-être, mais en général, quand on a tendance à réifier l'idée de Dieu, et ce que ne fait pas le Dharma. Le Dharma ne considère qu'il n'y a pas de rien, quoi que ce soit, qui demeure de façon permanente, bien que le soi, avec un grand S, c'est-à-dire l'état de Bouddha, est dit... Il est non conceptuel, mais néanmoins, il est dit aussi être permanent, c'est-à-dire sans début ni fin. C'est un état qui se trouve dans ce qu'on appelle le quatrième temps, c'est-à-dire c'est, il y a le passé, le présent, le futur. Et le quatrième temps, c'est le non-temps, l'expérience qui est au-delà du temps.
Je peux me permettre de dire que, d'après moi, dans le Vajrayana, il y a un rapport entitaire au Bouddha. C'est-à-dire que l'expérience directe de Sakyamuni, les lamas peuvent l'avoir directement, peuvent avoir affaire à la personne du Bouddha. Je pense en moi, et quelque part, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de rapport au déisme, ça cache quelque chose. Voilà. Et on trouve, on a. Moi, j'ai une expérience bouddhique de nombreuses années, et pour avoir un rapport direct à Sakyamuni, comme étant une personne. Donc voilà. Et quelque part, justement, le Bouddha est pris dans une cosmologie grecque, déjà à l'époque, on le retrouve comme Uranos. Et sur mon expérience, le Bouddha, c'est Saturne. Donc, c'est pas n'importe qui du tout. Hein. Donc, quelque part, c'est Chronos au point de départ. Et voilà. Et il est pris dans une histoire hindouiste aussi, avec Krishna, dans différentes vies. Même dans la Bhagavad Gita, il a déjà un rôle. Et ça, c'est pas dit dans l'enseignement. Vous donnez un enseignement canonique excellent. Parce que vous donnez des techniques de méditation qui sont parfaites. Si on les suit, on peut arriver à délivrance et à se soigner vraiment. Vraiment. Mais voilà, donc, et quelque part, dans la Kabbale, voilà, le Bouddha il y a un jour du Bouddha pris dans un rapport de démonologie, tout ça c'est pris dans une histoire comme ça aussi, qu'il faut connaître également, je crois, il me semble. Je me permets, hein, bon.
Oui, mais c'est bien de donner
votre... Ah, c'est pas du tout l'enseignement canonique, hein, mais...
Donner votre univers. Oui, mais c'est bien. C'est bien de partager, en tout cas, de partager votre univers.
Ouais. Et vous avez d'autres remarques ou d'autres...
J'ai une petite question. Oui. Il y a beaucoup de choses que vous avez mentionnées. Moi, j'ai du mal à comprendre la notion d'ignorance dans le cadre de la cause du bouquin. Du coup, je voulais savoir, et aussi donc dans ce cadre là quel est l'objectif de la méditation, qu'est-ce que la personne qui médite cherche, est-ce qu'elle cherche à se connaître elle-même ou à se connecter à une forme de grand tout, auquel cas à mon avis il y a la question d'interdépendance, et vous avez mentionné tout à l'heure que l'interdépendance signifiait le vide de chacun, du coup j'ai l'impression que tout se mélange un petit peu, donc j'avais besoin de recaler tout ça.
L'ignorance. C'est littéralement, c'est en tibétain, ou c'est ma rikpa, l'absence de connaissance, l'absence de compréhension, l'absence de reconnaissance de la nature de notre expérience. On est dans notre expérience. Au sensoriel, on est réveillé, on aime, on n'aime pas, on est en forme, on n'est pas en forme, etc. Mais on veut, on ne veut pas. Mais on est dans l'expérience, mais on n'est pas dans la nature de cette expérience. On ne la comprend pas vraiment. On est dirigé par nos impulsions, nos amours et nos haines ou nos rejets. Nos sensations, mais on ne voit pas la nature des choses. Et c'est ça l'ignorance. C'est de ne pas voir la nature de la réalité, d'être pris par ses apparences, d'une certaine manière, ou ses apparences, ou la superficie de l'expérience. C'est ça l'ignorance dont on parle. C'est l'absence de connaître. C'est pour ça qu'on appelle le Bouddha, parfois on dit aussi le Bouddha, c'est le connaissant, celui qui a compris la nature des choses, la nature des phénomènes, la nature interdépendante, impermanente et sans ego, c'est-à-dire sans entité. On a tendance à croire que nous existons en tant qu'une entité indépendante, autonome, par elle. Mais en fait, si on examine profondément, avec l'analyse, on voit bien que si on cherche l'entité à laquelle on s'identifie, on ne la trouve pas. Si vous cherchez le moi dans le corps, dans les sensations, dans les perceptions, vous n'avez pas trouvé isolé une entité à laquelle pourtant on semble attaché. Mais c'est là où il y a une, comme tu dis, une illusion, un phénomène. L'illusion, c'est un côté, l'illusion maya en sanskrit, c'est cette espèce de magie, un truc, une espèce de... qui nous fascine, qui nous détourne de la réalité.
C'est la vacuité, du coup, ça, c'est la vacuité. Ce qui est vide, c'est de penser qu'on est une entité propre et indépendante.
Comme il n'y a pas d'entité, en fait, place d'une entité, il y a une vacuité. Mais une vacuité n'est pas une chose. En fait, quand on dit l'interdépendance, là aussi, ça fait un peu raccourci parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est pas compliqué, hein, franchement. Par exemple, si on prend une mandarine, si vous cherchez, on dit ouais, ça c'est une mandarine. Et si vous cherchez la mandarine dans la peau, là, c'est pas une mandarine, ça. Par exemple, si vous cherchez après dans les quartiers, on va voir un quartier, deux quartiers, mais après, si on enlève la peau de ça, c'est plus une mandarine non plus. On va pas trouver de mandarine dans la mandarine. Qu'importe, n'en parlons pas. Si on cherchait avec un microscope, on verrait, je sais pas, des atomes, des molécules, des je ne sais quoi, mais tout sauf une mandarine. Donc la mandarine est une convention, une apparence à laquelle on a conventionnellement donné le nom de mandarine. Mais personne ne peut dire ce que c'est, en fait. C'est pour ça que les moines zen, il y a une fameuse truc qui dit « Qu'est-ce que c'est ?»
Je ne sais pas.
Et voilà, et donc et quand on dit interdépendance égale vacuité, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont constitutifs de cette mandarine sont interdépendants, la peau, le jus, les pépins, les filaments, la chair, tout ça, c'est des éléments, des phénomènes qui sont tous agrégés et qui sont interdépendants, qui dépendent les uns des autres, mais le fait qu'ils sont interdépendants fait que il n'y a rien qui soit à l'intérieur de tout ça qui ne soit indépendant, qui soit isolé, autonome. Et donc tous les phénomènes sont interdépendants, donc ils sont vides. Vides de quoi? Vides d'entité propre, vides de quelque chose, d'un noyau qui serait le noyau ultime du phénomène. Et on peut faire la même analyse avec nous-mêmes, notre corps, notre esprit, etc. Voilà, exactement. On ne trouve rien.
Ben non.
C'est un
sujet quand même. Comment ?
On est un sujet aussi.
Et oui, mais quel sujet ? Il est où le sujet ?
Il est là.
Et là, c'est où là ? Il est dans le L ou le A ?
Dans la parole, il est dans l'esprit, il est dans l'articulation entre les deux, je ne sais pas. Il est dans la présence.
Il nous échappe en tout cas. Ouais.
Il nous échappe d'une façon, mais il est là pour peut-être poser des actes et justement qu'il y ait cette friction entre les deux et des prises de conscience.
Ben en fait, je sais pas de quoi. C'est bien d'en discuter. Il y a eu beaucoup de discussions, hein, le Bouddha a eu des discussions avec. Mais et pour chercher de quoi il s'agit. Plutôt que ça soit un présupposé, il est là. Mais il, c'est quoi? Là, c'est quoi? Où? Quand? Comment? Le Bouddha est un analyste. qui analyse tout, qui découpe tout, enfin le Bouddha, l'enseignement, il y a un côté analytique très performatif d'une certaine manière, qui remet en question l'idée qu'il y a une entité. Alors, une entité, parce que d'ailleurs, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une entité ? Une entité, ça serait quelque chose qui serait indivisible. Parce que pour remettre en question une entité, il faut encore savoir ce que c'est qu'une entité. Là, ça serait un tout indivisible, autonome, qui constitue une unicité. Et bon, ben...
Le va-et-vient entre les deux, pareil.
Entre les deux de quoi ?
D'alterner entre le sujet et casser la baraque en disant « bon, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien, etc. » Voilà.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, parce qu'il y a un sujet au niveau relatif. Le Bouddha ne nie pas du tout le moi au niveau relatif. On a tous Nathalie, Frédéric, Christophe, Jean, et donc chacun a une individualité qui n'est pas niée, mais qui est dont on pointe l'aspect relatif et non absolu. Pas comme quelque chose qui serait... toujours la même chose, si on regarde une photo de soi il y a 15 ans, on n'a pas le même visage, on a changé, donc il n'y a pas quelque chose, ce que dit le Bouddha, c'est qu'il n'y a pas une entité fixe et autonome, indépendante, permanente, mais qui est une identité relative, oui, bien sûr, ça oui, c'est clair, et dont il faut prendre soin, dont il faut qu'il faut éduquer, qu'il faut soigner, qu'il faut, etc., bien sûr. Sinon, ça serait du nihilisme.
Sinon, en ce qui est tibétain, maladie et santé, ça se dit comment ? En sanskrit, tibétain, le terme, c'est la racine, je ne
sais pas. Ah, je ne sais pas. Bah, en sanskrit, enfin, là, je ne saurais pas te dire.
Tibétain,
donc c'est je sais plus comment on dit mais tibétain maladie, mais je sais pas. Bon là c'est une analogie, mais on parle de dukkha, enfin comme une ou le comme étant la maladie, mais il faudrait chercher. Je sais pas, mais mais c'est une analogie qu'on retrouve de, par exemple, les instructions de méditation, les men-ngak en tibétain, c'est les instructions remèdes. C'est des remèdes. Les instructions au compte de méditation, c'est des remèdes. Par exemple, je me souviens de... on dit des thunes. Thunes, c'est par exemple faire une session de méditation, c'est un remède aussi, c'est une médication. C'est considéré comme ça.
Le remède, il se trouve aussi à l'intérieur de la personne.
Bien sûr. Oui, puisque l'instruction de méditation, c'est un travail sur soi, et le remède, il est à l'intérieur de... Mais il s'agit de le mettre en œuvre. Mmh. Voilà, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, il n'est pas extérieur.
Et puis, Vipassana, la vision pénétrante, est-ce que ça ne consisterait pas à avoir une vision de qualité lunaire en expansion comme étant la conscience en expansion?
Peut-être.
C'est-à-dire, il est dit que le Bouddha, quand il veut dire quelque chose, il y a trois étoiles qui clignotent.
Il y a trois étoiles qui clignotent?
Oui, c'est par le cosmos qu'il s'exprime. Et puis, il y avait également, est-ce que ça ne serait pas un état... Mastercard a dit, celui qui n'est pas entièrement mort ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mm. C'est-à-dire être mort, c'est-à-dire ne plus avoir de...
C'est la mort à soi-même.
D'existence, quoi.
Ouais.
Un non-être, une sorte de mort,
oui.
Qui est un rapport de vacuité, qui devient la vacuité totale. Et comme ça, vraiment.
Mais c'est vrai, il y a toute une progression, mais c'est ça aussi, c'est un mythe, enfin pas seulement un mythe, mais un trait très universel, hein, la mort à soi-même, on trouve ça dans toutes les traditions spirituelles.
coup, moi j'ai une question sur la pratique du bouddhisme, parce que là on parle beaucoup de vacuité, de non-soi et d'absence d'ego, oui. Par exemple. Mais du coup, il y a une forme de repersonnalisation du croyant dans la figure de Bouddha. Parce que finalement, tout est tourné vers Bouddha. Dans les temples, il y a beaucoup d'offrandes pour Bouddha. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est un chemin spirituel intérieur qui en fait mène à la vacuité. Pourquoi est-ce que on remplit la figure de Bouddha ?
On remet, ouais. En fait, il y a plusieurs niveaux aussi. Dans le bouddhisme, imaginez, il y a tout un aspect, on va dire populaire, social, qui est réel, avec tout ce que ça comporte de rituels, de croyances, de décor, qui est justifié, qui est bon, qui est nécessaire, utile. Ben, c'est justifié parce qu'on est des êtres humains et qu'on vit à plusieurs niveaux et qu'on a besoin d'avoir des lieux de ralliement, des symboles, justement auxquels on peut donner un nom, donner une orientation, une inspiration, aussi une façon de... Ça peut avoir aussi un côté social d'identification à un groupe, etc. Enfin, c'est toutes les... ça, c'est la structure anthropologique des êtres humains, quoi, qui sont des êtres sociaux que nous sommes, et qui se rassemblent autour de grandes idées, de bon. Mais la philosophie du Dharma, auquel finalement, parmi l'ensemble de la population bouddhiste, peu s'intéresse, hein, c'est vrai que c'est... Les gens qui pratiquaient qui pratiquent la méditation parmi les bouddhistes asiatiques, il y en a très peu. C'est une petite minorité, bien sûr. Donc il y a un bouddhisme populaire, on va dire, qui a ses vertus, qui est très bon. Et puis il y a un bouddhisme plus... pour ça que le bouddhisme c'est pas un très bon mot, qui est plus... En tibétain, il n'y a pas de terme bouddhiste. Il y a le terme nangpa, c'est-à-dire c'est ceux qui pratiquent l'intériorité. Donc, qui sont tournés vers la compréhension de la nature des choses, la nature de l'esprit, la nature de notre expérience humaine. Et donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Oui, et du coup, ce que je comprends entre les lignes, c'est que, par exemple, une offrande faite à Bouddha, c'est plus apprendre le détachement pour moi-même, plus que pour donner quelque chose à Bouddha.
Exactement, oui.
Okay. Et donc, ça pourrait donner à n'importe où. Oui. N'importe quoi d'autre que Bouddha.
Tout à fait, mais le Bouddha, tous les bouddhistes bontins comprennent très bien que c'est une statue, comment dire, et que ça a juste c'est un symbole. Alors, par déférence, on respecte le symbole du Bouddha parce qu'il représente quelque chose qui est là.
Le chemin.
Le chemin et les qualités de sa réalisation. Mais on peut très bien, c'est vrai que fondamentalement, on pourrait très bien faire des offrandes à n'importe quoi, en fait. Oui. À partir du moment où on se le représente comme étant quelque chose auquel on aspire ou on respecte. Oui. Par exemple, l'offrande aussi, ça a énormément de sens. L'offrande, c'est une façon de pratiquer le don. Donc le don, la générosité, c'est une façon de donner de soi, c'est très joli la notion d'offrande. C'est très subtil, c'est très raffiné, le fait de savoir offrir quelque chose.
Je peux me permettre de dire une chose. Oui. Je pense que le Bouddha, n'est pas un néant. Hein. Il y a une personne et que l'on peut, par exemple, dans le rapport lamaïque, par exemple, il y a un mérite que l'on acquiert par une offrande pure à une. Le Bouddha, il y a aussi le Bouddha Amitabha, il y a d'autres Bouddhas de cet ordre-là. Et. Une offrande pure, faite à un être cosmique a des répercussions très positives. Il n'est pas néant, il n'est pas parti dans le néant. c'est pas quelqu'un qui t'a anéantisé. C'est pas, y a, c'est pas le néant, c'est pas le Bouddha. Le Bouddha est un être, y a, en mon sens, quoi. Et il y a, y a Linzi qui dit une chose, qui est un grand maître zen. Il a dit, le Bouddha, il faut le prendre comme un bâton pour se sécher le bras. Vous n'avez pas lu ça, cette chose-là. C'est-à-dire que la personne du Bouddha en elle-même n'a aucune importance. C'est son enseignement qui compte. Et je pense, et puis également une chose aussi, c'est une notion par exemple que Tetsurumpa Rinpoche, par rapport à la maïs, quand on a un maître, on est en lune de miel d'abord. C'est-à-dire que tout est merveilleux, donc voilà, c'est Bouddha. Mais le Bouddha, lui, par exemple, on ne parle pas de la politique du Bouddha, par exemple. De politique mondiale du Bouddha, quelle est-elle bah, des formes comme ça, il pourrait essayer de voir ça aussi. Et là, on peut se retrouver en contradiction avec le Bouddha quand on connaît, par exemple, le champ politique que le bouddhisme prend dans le système mondial, par exemple. Mais c'est pas... C'est-à-dire le fait que ça soit merveilleux que le Bouddha ce soit quelqu'un qui... que ça soit merveilleux, oui, mais... imaginons par exemple que vous insultiez le Bouddha. Je vous promets que vous allez avoir de graves difficultés.
Bon.
Et moi j'avais. Est-ce que tu peux dire un mot d'un terme qui revient beaucoup en Occident, c'est le karma. Comment tu présenterais le karma? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas évidente à.
Oui, puis
surtout. J'ai l'impression qu'en Occident on parle d'un truc qui n'est pas vraiment le
truc dont parle le bouddhiste. Ben, déjà, c'est pas un déterminisme, c'est pas un fatalisme, c'est pas du tout ça. Hein. Karma, ça signifie acte, action. Et en fait, le karma, c'est toute la séquence de l'action depuis sa cause, ce qui a causé l'action, l'action elle-même et sa conséquence. Par exemple, La cause qui fait que je vais prendre la bouteille, c'est que par exemple j'ai soif. Donc l'action, c'est que je la prends, voilà. Et la conséquence, c'est que maintenant je l'ai dans les mains. et pour que je vais bientôt me servir de l'eau. Vous voyez, donc c'est tout ça le karma. La cause, l'acte et la conséquence de l'acte. Donc c'est ça. Et le karma, donc c'est très, d'un point de vue, c'est très. Le principe du karma. Est très simple, c'est le mais ces modalités sont extrêmement complexes. C'est-à-dire le principe, c'est le principe de que les tout acte a une cause et une conséquence. Et mais que ces modalités sont extrêmement complexes, puisque qui pourra déterminer la cause, les causes d'un acte? En fait, si on cherche les causes d'un acte, par exemple, j'ai soif, le fait que j'ai soif, ça vient de mon corps, ça vient de mon esprit, et d'où mon corps vient de je ne sais où, et mon esprit de je ne sais où. Donc, les causes sont presque infinies. Hein, donc, si on remonte, donc et les conséquences aussi. Hein, donc les modèles, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réalité cachée à son niveau le plus profond. Et c'est important de le dire parce que souvent on entend des grossièretés comme dire c'est son karma ou je sais pas quoi, et ce qui est une connerie. Une connerie parce que c'est une vision complètement réductionniste et grossière. Et personne ne peut, enfin, à part le Bouddha, quelqu'un d'extrêmement clairvoyant, ne peut comprendre et voir le karma des êtres. C'est tellement complexe. Mais par contre, il y a une réalité très simple qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire, donc ça, c'est très basique. Hein, et c'est aussi une loi phénoménologique, en fait. C'est la loi des causes et des effets. Donc c'est phénoménologique. Et il y a un côté... Il
qui a un côté aussi qui est plus que moral, qui est plus, on pourrait dire, de type... on a presque envie de dire presque médical, c'est-à-dire que... Où, d'hygiène mentale et physique, c'est-à-dire que si on bouffe des saloperies, on est malade. Et si... et à un niveau... Et si on fait des conneries, on a des problèmes. Avec ses voisins, avec ses compagnons, avec la société, et voilà.
Avec soi-même.
Avec soi-même. Et si au contraire, on... Alors, c'est pas univoque, hein, je dis pas parce que ça serait trop simple, si on développe... on dit que les actes dits positifs ont des résultats, des conséquences positives, positifs ou négatifs, c'est là où ça... c'est ce qui est considéré comme positif et ce qui est considéré comme facteur de santé, d'harmonie, de bonté, de quelque chose qui est positif au sens où c'est facteur de santé, d'harmonie. Et ce qui est négatif, c'est ce qui est facteur de souffrance, de mal-être, tant pour soi que pour autrui. Donc voilà, c'est... il y a un côté comme ça très simple, et on dit que la source du karma, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire que ça vient d'une intention, parce que réduire le positif négatif comme ça, ça vient de l'intention. C'est vrai que au niveau grossier, bon, on va dire que des actes négatifs qui sont des actes violents ou irrespectueux ou vis-à-vis de soi ou d'autrui entraînent des conséquences négatives, mais il peut arriver que des actes négatifs perpétrés avec une intention noble et louable peuvent se révéler positifs. C'est pas si simple. Bon, c'est l'exemple classique, hein, c'est vous cacher des fugitifs innocents et vous faites un acte dit négatif en mentant ou en désarmant ou même en blessant les gens qui les poursuivent pour de façon injuste, vous faites un acte positif. Bon, la fameuse histoire du Bouddha, hein, vous connaissez, je pense, l'histoire du capitaine, le Bouddha capitaine, hein, dans une vie antérieure, dit-on, ben, ça aussi, il est capitaine d'un bateau qui prend en charge un ensemble de marchands qui vont vendre leurs marchandises sur la côte en face et en fait il s'est glissé dans l'équipage un pirate qui a décidé de tuer les marchands pour récupérer les marchandises, et donc le capitaine, qui est le Bouddha, dit-on, s'en rend compte. Et donc, il tue le pirate et il sauve les 10 marchands qui sont sur le Bouddha, sur le bateau. Donc, c'est pour dire que c'est l'exemple classique, hein, qui montre qu'un acte négatif peut être, en fonction de l'intention qui le sous-tend, peut être dit positif. Voilà.
J'ai envie de dire quelque chose, oui. Si tu permets, qui me vient de dire. Enfin, j'avais lu dans un livre, je ne sais pas à quel point c'est pas le Dalai Lama, d'ailleurs je ne suis pas certaine, qui aurait écrit, enfin en tout cas un maître qui avait écrit que tout le monde, en fait, on avait tous un karma qui était à 95% négatif, enfin on n'avait pas forcément des très bonnes prédispositions, etc., mais que justement c'était le sens de, en sibérant, enfin de notre ignorance, en mettant des... en posant des actes positifs, etc., que c'était... On pouvait s'en sortir, quoi. Enfin, mais que c'était pas justement qu'il n'y avait pas de déterminisme, qu'il y avait pas, enfin, qu'on pouvait avoir plein de problèmes, plein de choses qui arrivent dans la vie, mais que en œuvrant de façon positive, en faisant les bons choix, c'est là qu'on allait pouvoir ressortir d'une manière plus intéressante, quoi. Mais que
oui, c'est pas déterministe. C'est pas déterministe parce que, comme on dit, alors on est... Enfin, on est à moitié libre et à moitié conditionné, en fait. C'est ce que dit l'enseignement. Hein. C'est qu'on a une part de nous qui est conditionnée, c'est évident. On est des... Je sais pas, on est... une femme, un homme, on parle français, on parle chinois, on a certaines qualités, certains défauts, certaines forces, certaines faiblesses, on a des capacités différentes, etc. Donc on est conditionné d'une certaine façon, et en même temps on a aussi une liberté. On a aussi une liberté qui vient de notre esprit, de l'ouverture de nos sens, de notre intelligence, et la pratique méditative en particulier va en opérant ce déconditionnement, augmente notre part de liberté, notre part de clarté en fait, dans nos choix, dans nos décisions. Et c'est vrai que on croit qu'on est libre, mais en fait, on est complètement dicté par nos conditionnements, dans nos choix et nos actes, plus ou moins en tout cas. Mais néanmoins, on a toujours une part de liberté, et c'est vrai que la pratique de la méditation, enfin de l'enseignement, est un support qui permet d'élargir le champ de sa liberté.
Mais d'un côté, du coup, tout à l'heure, vous parliez d'impermanence, c'est ça ? Du fait que tout est un peu flou, rien n'est continuité. Donc, en fait, ce que je comprends pas, c'est le paradoxe entre ça et la continuité karmique. Parce que si qui est responsable de la cause et qui va subir la conséquence, si c'est déjà plus la même personne ?
Oui, c'est une bonne question. oui, tout à fait. Eh bien, on dit qu'il n'y a pas d'identité, mais il y a une continuité. C'est comme ça par rapport à la mort aussi. Là, après, je vois la question que ça va être par rapport à la réincarnation, tout ça. Mais il y a identité, mais pas continuité. Il y a continuité, mais pas identité. Et dans la réponse à ta question, je ne dis pas que ça mérite d'être creusé, hein. Mais en tout cas la réponse c'est qu'il y a une continuité d'information un courant continu sans qu'il y ait une identité, une entité, et donc effectivement on change à chaque instant, mais néanmoins à travers les années, etc., mais il y a quand même une continuité d'information qui subsiste, et c'est vrai de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et comme c'est vrai de vie en vie.
Mais du coup, oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, Virginie. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de justice là-dedans, parce qu'on ne peut pas apprendre et faire mieux la prochaine fois, étant donné que je ne suis déjà plus la personne et je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai fait dans la vie précédente, par exemple. Si en plus ça transcende les différentes vies.
Si, on peut. Alors, il n'y a pas de justice, effectivement, c'est pas une justice externe. C'est plutôt que. On a la capacité à transformer les choses, si. Pourquoi on n'aurait pas la capacité à transformer ?
Parce que si le karma, c'est la conséquence de ma vie précédente,
oui.
Si j'en subis les conséquences maintenant, mais la cause était précédente, je ne peux pas me souvenir de cette cause.
Si, donc, mais je peux la trouver aujourd'hui.
Donc je peux comprendre aujourd'hui qu'il y a une conséquence de quelque chose que j'ai fait de mal, mais je ne peux pas savoir ce que j'ai fait de mal, puisque je ne suis déjà plus celui que j'étais.
Mais tu peux comprendre... Alors. Si, mais tu peux changer aujourd'hui des comportements que tu comprends comme étant problématiques.
Oui, tu peux les changer. Dans le maintenant. Mais du coup, ce comportement-là sera la cause du karma du futur.
Oui, mais ça, le karma, après, il peut y avoir des conséquences à court, moyen, long terme. Donc effectivement, il y a une part de conditionnement, comme je disais tout à l'heure, auquel on n'a pas vraiment le choix d'être confronté. Tu vois, si on est doué en maths ou moins, ou je sais pas, on peut quand même faire des progrès, mais on peut pas être un génie des maths si on n'a pas le karma. Karma, c'est une façon de dire, dans le sens on n'a pas, c'est une réunion de facteurs qui
une
font que
de don,
voilà, enfin que ça soit une réaction de voilà, mais le karma c'est surtout un enseignement sur la responsabilité en fait, la responsabilité qui nous enjoint d'une certaine de comprendre que on a un pouvoir sur soi-même, sur nos actes. De nous prendre en main de façon à tant pour soi que pour autrui, et que ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire
de sain, on va dire, pas sans santé. Hein, c'est toujours bon de le faire. Mais là aussi, l'éthique du dharma n'est pas une éthique d'autorité, c'est-à-dire que l'éthique, la discipline éthique, c'est pas, vient pas d'une d'argument d'autorité qui viendrait d'une divin ou même humain. Ce qui est proposé, c'est plutôt de comprendre par soi-même ce qui est juste et bon de faire ou de ne pas faire. Et l'enseignement donne des repères, mais à nous de comprendre. C'est plutôt c'est pour ça qu'on parle d'éthique plus de mort que de morale, parce que la morale a tendance à on se méfie un peu de la morale, hein, parce que ça peut être manipulé, utilisé. C'est plus basé sur la compréhension que sur l'autorité, on va dire.
Ouais. Merci pour cette réponse.
Le karma immédiat aussi. On doit être pensé en un coup immédiatement. Une mauvaise pensée et en un coup. Ouais, donc la mauvaise pensée peut donner un coup immédiatement. Un choc au genou, c'est ça le karma immédiat.
It's time.
Bon, ben.
Oui, 17, 10h.
Merci.
Merci
beaucoup. Merci.